Très heureux de partager ce temps avec vous cet après-midi. Voilà, je m'appelle Lionel Gros et je suis, vous l'avez vu, accompagné de mon épouse Laura et de nos enfants Célia, Manon et David qui est à côté. Et puis, la plupart d'entre vous, nous ne vous connaissons pas, mais nous connaissons bien deux personnes qui vous ont rejoint il y a quelques temps, puisque ce sont nos cousins, enfin des cousins de Laura très exactement, Sandrine et Pierre-Yves. Donc, c'est la première fois d'ailleurs que nous venons à Cavaillon. Je ne crois pas qu'on soit... On est passé sur la 7 là, mais on ne s'était encore jamais arrêté.
Et Dieu vous pardonne.
Voilà. Ah, merci. On est pardonné, ça va. En tout cas, nous venons de Nîmes, mais nous n'avons pas toujours été à Nîmes. Ça fait seulement bientôt 2 ans que nous y sommes. Avant cela, nous étions en région parisienne où nous avons grandi. Et ça, jusqu'à l'été 2023, nous avons fait, Laura et moi, nos études de théologie à l'Institut biblique de Nogent de 2007 à 2010. Et puis ensuite, de 2010 à 2013 à Vaux-sur-Seine. Et puis, suite à cela, j'ai été pasteur 10 ans de 2013 à 2010, 2013 à 2023 en région parisienne, à Noisy-le-Grand, dans l'association Baptiste aussi. Et puis, donc, depuis 2023, ici à Nîmes, toujours dans l'association Baptiste. Et vous aviez effectivement Mathieu Audap la semaine dernière qui était là dans ce cadre-là aussi. Et donc, je vous transmets les salutations de l'Église Baptiste de Nîmes. Chaleureuses salutations. On a eu plaisir de découvrir en venant ici le Mistral. C'est quelque chose, hein. On n'avait pas ça là-haut, voilà, c'est l'esprit qui souffle. Alors, je vous invite à suivre la lecture dans la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, la première lettre. Chapitre 12, les versets, tout le chapitre, donc versets 1 à 31. Le texte va s'afficher ici, dans la traduction de la Colombe. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Car de même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier, pardon, s'il était tout oui, tout oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Ce chapitre, cette lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Corinthe, une église qui avait un certain nombre de défis en son sein, des tensions, et c'était dû en grande partie à la composition de cette église. Et plus largement, quand on regarde sur une carte là où se trouve la ville de Corinthe, elle se trouve à un endroit où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux en tout genre, avec le nord et le sud, l'est et l'ouest. C'était un port important qui desservait le sud, l'Achaïe, et puis tout le reste de la Grèce antique au nord. Et donc il y avait beaucoup de choses qui se croisaient là, et pas seulement du commerce, mais aussi des religions, des philosophies, des cultures différentes. Et par conséquent, il y avait une très forte diversité dans la ville de Corinthe, et on retrouvait cette diversité dans l'Église qui constituait cette église de la ville de Corinthe, parmi les Corinthiens. Elle était donc particulièrement tourmentée et menacée par la division, avec des clans, des partis pris. Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. On a ça dans les premiers chapitres de la lettre. Il y avait des controverses, des problématiques diverses que l'apôtre Paul aborde dans cette lettre. Et c'est dans ce contexte tourmenté que Paul exhorte cette église à retrouver, comme il le dit au tout début de la lettre, au premier chapitre, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. » Et pour cela, l'apôtre donne une image qui est très importante et que l'on a vu dans notre passage, une image qui est un principe à vivre pour les Corinthiens et qui est un principe à vivre pour toute Église jusqu'à encore aujourd'hui. Cette image, c'est l'image du corps, le corps humain. À la lumière de ce texte d'1 Corinthiens, chapitre 12, nous allons voir cet après-midi, tout d'abord, trois notions qui se dégagent de cette image du corps dans ce chapitre. Et puis on terminera avec deux prolongements qui sont des applications concrètes de notre passage. Tout d'abord donc trois notions. La première, c'est l'unité. L'unité. Et Paul le martèle. Combien de fois dit-il un seul corps? Un seul corps. Ça revient bien des fois dans tout ce texte. Il veut marteler que l'unité, elle est primordiale. Elle est au service d'un même Dieu. Mais en même temps, l'unité est un défi, surtout quand on voit la diversité qu'il y a dans cette Église et quand on y réfléchit bien dans toute Église. J'y reviendrai. Mais dès lors que vous mettez deux personnes ensemble pour travailler ensemble, pour mener une tâche, l'unité devient un défi. Dans l'Église aussi, Dieu bâtit son Église de sorte qu'elle soit unie et c'est ensuite aux chrétiens qui la composent d'entretenir cette unité, de travailler au maintien de l'unité. Parce que l'ennemi, le diable, est là pour semer la division dans l'Église. Un peu comme on le voit dans, si vous aimez les BD d'Astérix, dans la BD d'Astérix, la zizanie. Les Romains envoient un petit bonhomme qui paye vraiment pas de mine. Ils l'envoient pour semer la zizanie dans le camp des Gaulois. Et il y arrive. Et ça met le camp des Gaulois sans dessus dessous. Eh bien, l'ennemi, le diable, procède de la même manière envers l'Église. Alors, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour semer la zizanie. Un texte dans un autre passage, dans 1 Pierre, chapitre... Ah, ça ne va pas venir. Voilà, si. Attendez. Voilà. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Il veut dévorer, il veut semer la discorde, la division, la zizanie. L'unité de l'Église donc, n'est pas quelque chose de facile. Elle ne va pas de soi. Autrement, Jésus n'aurait pas prié pour son Église comme on le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Si les premières églises, il y a donc quelques 2000 ans, n'avaient pas été menacées par toutes ces questions de division, mais qu'elles étaient restées unies, et ce serait bien des passages du Nouveau Testament qui n'auraient jamais eu besoin d'être écrits. L'unité est un réel défi. Et c'est donc la première notion qui découle de ce passage, hein, l'unité. Et ce qui fonde notre unité, contrairement à ce qu'on pense parfois, ce n'est pas l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parfois on pense que l'amour nous unit. Mais en fait, on est invité à aimer notre voisin. On est même invité à aimer nos ennemis. On n'est pas pourtant unis avec eux. Ce n'est pas l'amour qui va fonder notre unité. Ce qui fonde notre unité, c'est le message dans lequel nous croyons. Si vous ne vous étiez jamais posé la question, mais à quoi servent, à quoi bon une confession de foi? Ou, comme vous l'appelez sur votre site internet, une déclaration de foi. Pourquoi une déclaration de foi à notre Église? Pourquoi une déclaration ou une confession de foi à notre union d'Église, qui d'ailleurs je crois est la même que l'association baptiste, hein, il m'a semblé. Ouais, pareil à Nîmes, nous avons aussi on a donc la même, en 10 points, la même confession de foi à Nîmes, ici à Cavaillon et dans bien d'autres églises de l'association baptiste.
Et celle du réseau FEF, donc elle est même encore plus large.
Et celle du réseau FEF, et aussi le CNEF, et j'ai vu que vous aviez sur un autre endroit du site mentionner le réseau FEF, le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, parce que cette confession de foi définit les points de doctrine qui sont essentiels et sur lesquels nous ne saurions être, en désaccord. Cette confession de foi nous rappelle donc l'essentiel de notre foi et c'est sur cette base-là que nous sommes unis. Cela nous rassemble. Ça donne le socle commun sur lequel donc nous fondons notre unité et aussi notre action commune. Seconde notion qui découle de notre passage, la diversité. Et Paul insiste aussi grandement sur cette diversité. Il dit qu'il y a une diversité de dons, une diversité de services, plusieurs membres, chacun des membres. Il y a une diversité de nationalités. Il parle de juifs, de non-juifs. Diversité de classes sociales, des esclaves, des hommes libres, etc. Il veut en fait montrer que diversité et unité vont ensemble. Et il y a un passage, un verset, dans notre chapitre 12 qui illustre bien cela. Je le relis, ce verset 12. « De même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps. Alors j'ai mis des couleurs parce que, si vous regardez bien, ce qui est en bleu, il est question d'unité. Et ce qui est en orange, de diversité. Et cette manière de présenter les choses, c'est quelque chose qu'on a très très souvent dans la parole de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament, où on veut montrer dans la manière dont les choses sont dites, on veut dire quelque chose du message, c'est que ici, la diversité, elle est au service de l'unité. L'unité inclut la diversité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le corps constitue un tout uni, tout en étant composé d'une diversité en son sein. Mais les deux vont ensemble. Et le verset 12 se termine « Ainsi aussi est le Christ ». Et Paul rappelle concernant le Seigneur, concernant Dieu, il parle du même esprit, un seul esprit, le même Seigneur, le même Dieu. Et donc l'Église, elle est une, avec une diversité en son sein, tout comme aussi Dieu, notre Dieu, est un Dieu trinitaire avec une diversité en son sein. Un Dieu un, unique, avec en son sein une diversité, parce que notre Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit, comme vous ne manquez pas de le mentionner dans la confession de foi, dans le premier article. Un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc l'Église, elle se calque en fait sur Dieu lui-même, qui est à la fois un en trois personnes. Et dans l'Église, il y a donc une diversité de personnes qui ont tout en commun leur foi, la même foi en un même Dieu. Cependant, toute cette diversité, elle est au service de l'utilité commune, comme cela ressort dans ces versets que nous avons lus ici. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour le bien commun. Malheureusement, dans l'église de Corinthe, cette diversité, elle causait des problèmes. Un manque de respect des plus forts vis-à-vis des plus faibles, notamment. Il y avait de l'orgueil, il y avait différentes choses qui posaient des problèmes dans cette église. Et le contexte du premier siècle de notre ère encourageait à ce genre de discrimination. Les plus riches, les plus forts, qui avaient tendance à mépriser les plus pauvres, ceux qui étaient les plus faibles. Et ce phénomène, il était présent aussi jusque dans l'Église, avec notamment, si vous regardez le chapitre juste avant celui que nous avons lu, au chapitre 11, il est question de cette problématique sur le repas du Seigneur, où justement les plus aisés au niveau social, qui n'attendaient pas les autres pour partager le repas, et en particulier le repas de la scène. Et avec cette image du corps, Paul veut mettre en évidence la nécessité de cette diversité. C'est ce qui ressort notamment, je ne le relis pas, mais j'affiche ces versets ici, 15 à 17. La nécessité de la diversité, elle est nécessaire parce qu'elle permet une complémentarité. La faiblesse de l'un, eh bien, elle peut être compensée par la force d'un autre, et vice-versa. Cette diversité, elle est voulue par Dieu, parce que, comme on le lit dans le verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est la volonté de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, cette diversité. On pourrait penser que la diversité va nuire à l'unité, que le fait qu'on soit tous différents les uns des autres empêche une bonne unité dans le corps. Et en fait, l'apôtre Paul veut nous montrer tout le contraire. Il veut nous inviter à voir dans la diversité une richesse. La diversité vient là pour enrichir tout ce que nous représentons, enrichir notre unité pour la renforcer et lui apporter une complémentarité bienfaisante pour l'Église. Donc la deuxième notion, c'est la diversité. Et cette diversité, vous la vivez ici à Cavaillon, nous la vivons dans notre union d'église, dans l'association baptiste, et plus largement, nous la vivons dans l'ensemble du monde évangélique, ici et ailleurs. Ça peut être un défi, mais toute cette diversité, elle est précieuse, elle est belle, et elle fait partie du plan de Dieu, et il nous faut apprendre à vivre ensemble, et tout cela en vue de, verset 7, l'utilité commune. Troisième notion qui découle de ce passage, la solidarité. L'image du corps montre donc une unité, il y a un seul corps, dans lequel il y a une diversité d'organes, de membres, mais ça ne s'arrête pas là. Quand on regarde un corps humain, les organes, les membres communiquent entre eux, ils sont en relation. De par les tendons, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les articulations, ils sont en relation les uns avec les autres. Et dans le corps humain, dès lors qu'on touche à un organe quelque part, ça va avoir des répercussions ailleurs dans le corps. Un organe souffre et ça engendre des réactions, de la fièvre, de la douleur, de la fatigue, un manque d'appétit. Eh bien, dans l'Église, il en est de même. Le chrétien n'est pas appelé à vivre en électron libre tout seul dans son coin, mais il fait partie d'un corps, d'un tout, le corps de Christ, comme on le lit dans le verset 26. Vous êtes le corps de Christ. Et nous sommes chacun un des membres de ce corps. Qu'est-ce qu'un œil ou un bras pourrait bien faire tout seul s'il était en dehors du corps humain? Cela n'aurait pas de sens. L'œil et le bras ont besoin du reste du corps. Eh bien, dans l'Église, nous avons besoin également les uns des autres. Et c'est intéressant de noter que Paul ne présente pas les divers organes du corps de manière hiérarchique. On pourrait être tenté de dire, eh bien, le cerveau, les poumons, le cœur sont plus importants que le rein qui lui-même est plus important que l'œil qui lui-même est plus important qu'une main ou un pied. Non. L'apôtre Paul ne dit pas les choses comme ça. Il va dans le sens d'une interdépendance de tous les membres entre eux. Et même il va un peu plus loin. Regardez ces versets 22 à 25. Hop, voilà. Dans ces versets, il montre que les membres les plus humbles, ils ont une place toute particulière. Je relis ce passage. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, eh bien tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si nous pensons pouvoir nous passer du corps, c'est-à-dire nous passer de l'Église, c'est que nous n'avons pas compris ce que la Bible dit ici, et ailleurs d'ailleurs, pas que dans ce texte d'1 Corinthiens 12. Il suffit de repenser à toutes les fois où la Bible et le Nouveau Testament en particulier nous encouragent à veiller les uns sur les autres, à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous aider à porter nos fardeaux les uns les autres, à s'exhorter, à s'encourager les uns les autres. Point de suspension. Nous avons besoin les uns des autres. Troisième notion donc, la solidarité. Et j'imagine que cette solidarité, vous la vivez ici, dans les ressources que vous mettez en commun, dans le service pour la vie de l'Église, dans le service d'une manière générale, etc. Cette solidarité, elle est belle. C'est Dieu qui la veut. Unité donc, diversité et solidarité. Trois notions qui se dégagent de cette image du corps que l'apôtre Paul laisse à ses chrétiens de Corinthe et nous laisse à nous aujourd'hui également. Alors j'aimerais terminer maintenant en exposant comme sorte de longue conclusion deux prolongements. Un premier prolongement, d'abord le défi des relations. au sein du corps. Dans toute église, il y a des caractères différents, des cultures différentes, des classes sociales différentes, des dons différents, la musique, l'aide, le soutien, l'enseignement aux enfants, le service ménager, la logistique, la direction, l'enseignement, etc., etc. Il y a des qualités, il y a des défauts différents. Il y a beaucoup de différences, mais Paul nous exhorte à apprendre à vivre ensemble, comme cela ressort d'ailleurs de cette image du corps humain. Il nous faut œuvrer avec les frères et les sœurs que Dieu nous a donnés. J'ai envie même de dire, il nous faut œuvrer, travailler avec les frères et les sœurs que Dieu nous a confiés, plus que donnés. Il nous les a confiés. Dieu vous a confiés les uns aux autres. Quand vous vous voyez, dites-vous, cette personne, Dieu l'a placée dans l'église à côté de moi pour un but particulier. Je dois lui apporter quelque chose, elle m'apporte, elle nous apporte, nous nous apportons quelque chose mutuellement. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres en prenant soin des autres. En particulier, comme on l'a vu, peut-être de ceux qui sont les plus faibles, peut-être des personnes qui sont affaiblies par la maladie, par le grand âge, par l'épreuve, par le découragement, et que sais-je encore. Et puis qui sait, aujourd'hui, je suis peut-être un membre du corps qui est en bonne santé. Je peux peut-être venir plus facilement aider une personne qui aura un besoin particulier. Et puis demain, ce sera l'inverse. C'est moi qui aurai besoin de... Et donc, on voit que la solidarité, elle est mutuelle. Alors, continuez à œuvrer à de bonnes relations les uns avec les autres au sein de ce corps qu'est l'Église dans son expression locale ici à Cavaillon. Et il y a bien des choses qu'on peut faire pour apprendre à mieux se connaître, à vivre ensemble les uns les autres dans l'Église, en s'encourageant, en s'aidant, en se soutenant, en priant les uns pour les autres, il faut venir à la réunion de prière, en se pardonnant les uns les autres, en exerçant l'hospitalité, en s'accueillant les uns les autres, en se saluant, en prenant des nouvelles les uns des autres. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas vraiment? Comment est-ce que tu vas? Et puis si la personne nous dit quelque chose mais qu'on oublie après coup ce qu'elle nous a dit et que le dimanche suivant on ne lui demande pas comment ça a été ta semaine, prions pour cette personne pendant la semaine qui vient. Prenons de ses nouvelles. Envoyons un petit message. Appelons-la. Comment ça a été ton travail, ton déplacement? Comment ça a été ton entretien? Comment ça a été ton examen? Les relations sont un défi dans l'église locale, mais Dieu a placé chacun des membres, comme on l'a vu tout à l'heure, il a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et donc ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui, si nous sommes ensemble aujourd'hui, ou à Nîmes, ou ailleurs. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui nous a placés là pour qu'on avance ensemble, en étant unis avec cette diversité et pour vivre cette solidarité mutuelle. Deuxième prolongement, qui sera articulé, lui, sur la motivation qui nous pousse à être constructif, à aller de l'avant dans les actions, dans les défis que nous pouvons mener en Église, tout en œuvrant au maintien de l'unité, tout en respectant la diversité qu'il y a autour de nous et tout en étant solidaires les uns des autres. Eh bien, ce qui nous motive, c'est l'amour les uns pour les autres. Alors là, vous allez me dire, mais il n'est pas question d'amour dans 1 Corinthiens 12. On n'a pas parlé d'amour. Et c'est vrai, il n'est pas question d'amour dans 1 Corinthiens 12. Mais en fait, si on regarde bien le dernier verset que nous avons lu, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et s'ensuit au chapitre 13, ce célèbre chapitre que nous connaissons souvent très bien, la voie par excellence dont parle Paul, c'est l'amour les uns pour les autres. Alors 1 Corinthiens 12 s'inscrit dans toute une argumentation qui commence au chapitre 12 et qui va jusqu'à la fin du chapitre 14 sur la mise en pratique des dons spirituels au sein de l'Église, des services que l'on fait au sein de l'église locale. Et Paul montre comment l'amour les uns pour les autres permet justement de bien vivre ces dons spirituels. Mais en fait, quand on y regarde bien, ce qu'il dit pour les dons spirituels, ça vaut pour tout ce que nous vivons dans l'église. Et c'est pour ça que je prends cette liberté ici d'étendre, non pas aux dons spirituels, et je pense que c'est plus à quelqu'un de l'église ici de vous parler des dons spirituels, en fonction de comment vous vivez ça dans l'église, et que moi je regarde les choses sous l'angle, peut-être avec plus de recul, et voir l'application dans sa globalité de cette unité, cette diversité, cette solidarité que j'ai mise en exergue tout à l'heure, et de montrer comment l'amour permet justement de vivre cela. Donc ce n'est pas l'amour qui va fonder notre unité, mais c'est l'amour qui va permettre de contribuer à l'unité, au respect de la diversité, et puis d'aller aider, d'être solidaire quand il y a besoin aussi. Cet amour que nous avons les uns pour les autres s'inspire de l'amour que Christ a pour nous. Un amour qui se donne, un amour qui pardonne. Nous connaissons ce texte, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis ce texte de 1 Jean 3, verset 16, que je lis ici dans la Bible du Semeur, affiché juste en dessous. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Et c'est également la recommandation qu'il nous faut mettre en pratique pour que les membres du corps puissent vivre unis les uns aux autres dans la communauté. L'amour est la voie par excellence pour tout ce que nous vivons en Église et en particulier dans les relations les uns envers les autres. L'amour est ou devrait être le moteur à toutes nos actions, à tout ce que nous menons ensemble. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si cette première lettre de Paul aux Corinthiens contient ces invitations à l'amour fraternel, au point même que, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais la lettre se termine par cette exhortation ultime à l'amour. On lit cela dans le chapitre 16, verset 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et le Seigneur Jésus nous a laissé ailleurs dans cette parole qu'il donne dans la veille de sa crucifixion, le jeudi soir, lorsqu'il est là avec ses disciples dans la chambre haute. Il donne à ses disciples-là ce commandement. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour laisser résonner l'une ou l'autre chose que vous avez entendue cet après-midi, et puis je terminerai par la prière. Mais d'abord un temps de silence. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te bénir pour ce temps que nous vivons ensemble cet après-midi. Merci pour Déjà tout ce que nous avons vécu dans la première partie de ce culte avec ces rappels de ce grand Dieu majestueux que tu es, qui nous aime, qui a une vision globale sur tout ce qui se passe bien au-delà de la petite vision que nous avons, nous, de notre hublot. Mais Seigneur, quelle grâce d'entrevoir avec ces textes comme dans Apocalypse 7 ou d'autres, d'entrevoir ce que tu accomplis, ce que tu nous réserves pour l'éternité avec toi, où nous te verrons face à face, où nous serons semblables à toi, comme nous le lisons dans la première lettre de Jean, au chapitre 3. Seigneur, il est bon de se savoir aimé par toi, de savoir que tu es présent à nos côtés, de savoir que tu es là, de savoir qu'on peut s'attendre à toi, compter sur toi. Seigneur, je veux te bénir pour cette église ici, cette église sœur à Cavaillon. Te bénir pour ces frères et ces sœurs que nous avons, qu'ils sont l'un pour l'autre, les uns pour les autres aussi. Je te prie, Seigneur, que tu gardes chacun, qu'ils soient présents cet après-midi ou qu'ils aient été retenus pour une raison ou une autre. Je te prie que tu gardes les enfants qui sont à côté aussi, les personnes qui les encadrent aussi, qui les enseignent, qui leur parlent de toi. Je te prie, Seigneur, que ta main soit posée sur cette église, dans leurs relations les uns avec les autres, que ces relations soient motivées, soient boostées par cet amour les uns pour les autres, qu'ils puissent ensemble travailler à cette unité qui, je crois, est déjà là, mais qu'ils la maintiennent, qu'ils la vivent, qu'ils l'expérimentent toujours plus, en tenant compte de cette diversité qu'il y a, et qu'ils expérimentent aussi cette solidarité mutuelle. Seigneur, garde leur témoignage aussi dans cette rue, ce quartier, cette ville de Cavaillon. Que ta main, Seigneur, soit posée sur chacun d'eux, sur les différents responsables aussi de cette communauté. Veille sur eux. Merci, Seigneur, pour le témoignage de cette église sœur ici à Cavaillon, et c'est un privilège d'apprendre à un petit peu mieux les connaître aussi dans ce temps. Merci, notre Dieu, de ce que tu es là, et nous voulons nous recommander à toi et compter sur toi pour la suite de cette journée et le reste de cette semaine qui a démarré. Nous nous confions en toi, notre Dieu. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.